Le lien de confiance entre les collectivités territoriales et l'État est-il rompu ? Hier, à Marseille, devant les présidents de départements réunis en congrès, le Premier ministre n'a pas réussi à calmer la colère des élus locaux qui va crescendo depuis l'été. Jeudi, Emmanuel Macron a reçu François Baroin, président de l'Association des maires de France, en vue du congrès programmé dans un mois. Et puis lundi, à Grigny, dans l'Essonne, ont eu lieu les premiers états généraux de la politique de la ville dont on célèbre simultanément le 40e anniversaire. À cette occasion, 150 maires en charge de quartiers populaires dans leur ville ainsi que les associations qui œuvrent auprès de la jeunesse et des populations fragiles ont lancé un appel solennel au président de la République qui restera sous le nom d'appel de Grigny, si tant est qu'il reste et si tant est que cet appel soit transformé en acte. Bonjour Stéphane Gratignon.
Bonjour.
Gatignon, pourquoi je vous mets un R ? Vous êtes maire de Sevran, cette fois il y en a bien un, en Seine-Saint-Denis, depuis 17 ans. Vous êtes membre du Parti écologiste, celui qui a été créé en 2015 par François de Rugy et Jean-Michel Placé. Vous êtes aussi l'un des animateurs de ces états généraux, les premiers à l'initiative d'élus locaux. On se souvient qu'en 2012, vous aviez fait, Stéphane Gatignon, une grève de la faim pour alerter sur la situation critique des finances de votre ville. Mais là, des maires de tous horizons, de droite comme de gauche, et c'est pas parce que vous avez soutenu Macron que vous n'y êtes pas non plus, étaient là à ces états généraux et ont signé cet appel de Grigny. C'est rare, c'est suffisamment rare pour que des maires se retrouvent tous ensemble pour être notés. Est-ce que c'est signe que la situation va vraiment très mal, Stéphane Gatignon ?
C'est très rare, puisque moi, en 17 ans, c'est la première fois que je vois qu'on arrive à se réunir, à, comme vous l'avez dit, finalement, on fait du macronisme, hein, sauf d'une façon un peu différente. J'ai l'impression que c'est ni droite ni gauche, alors que nous, on est droite et gauche. Voilà, parce qu'il ne faut pas nier les différences. Je pense que c'est totalement inutile. Mais par contre, on peut avancer, y compris sur l'appel et toutes les discussions qu'on a depuis le mois d'août, en gros. J'allais dire, les questions partisanes n'entrent pas et on arrive à se mettre assez facilement d'accord sur y compris un texte qui est assez long et il y a à la fois des mesures d'urgence, des mesures plus de réflexion et de vision politique, et puis des mesures plus larges, comme par exemple d'avoir un ministre d'État chargé de la ville, de la cohésion des territoires, et pas seulement un secrétaire d'État. Voilà, parce qu'on pense que c'est important. On pense qu'il faut que la question de la banlieue, de la périphérie, des zones fragiles soit au cœur du débat, il faut que ça revienne dans le débat, et puis au cœur de la nation. Voilà, et donc ça c'est important.
Ça ne l'est plus.
Ça ne l'est plus. Et quand je dis la nation, je dis pas seulement le politique. Par exemple, il y a toutes les... vous avez par exemple la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui intervient beaucoup dans la politique de la ville, dans toutes nos politiques chez nous, qui est aujourd'hui... C'est une structure qui est animée, qui est co-gérée par les syndicats. Quand je dis nation, c'est vraiment le politique, mais aussi toutes les forces sociales qui participent à ça. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est adressé au président dans ce sens-là, en disant c'est aussi l'incarnation. Finalement, le président de la République, au-dessus de tout le monde, est aussi l'incarnation de la nation. Et il doit prendre en compte, aujourd'hui, ces territoires, la banlieue. Vous savez, les zones sensibles, c'est 5,5 à peu près millions d'habitants. Mais si vous regardez sur les villes, les territoires, on est entre 8 et 9 millions d'habitants. Enfin, c'est pas rien dans notre pays, quoi. Donc, on peut pas ignorer ça. Voilà, on peut pas ignorer. Je dis ça parce que, finalement, il y a une vision un peu péjorative, je pense. Et on stigmatise beaucoup... nos territoires, les populations, alors que voilà, c'est là que ça se passe en même temps, c'est-à-dire que c'est les populations. Je prends juste mon département que je connais un peu, parce que après le reste de la France, j'ai fait un petit tour dans le Nord, je trouve que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, effectivement, pour les communes et pour tout le monde. Mais déjà, dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est jeune, cosmopolite, ça booste un peu tout ça. On voit bien qu'avec l'enjeu, par exemple, des JO qui arrivent, il y a quelque chose qui se passe aussi. Voilà, et c'est là qu'il y a aussi nos talents, c'est-à-dire qu'ils soient sportifs, culturels, économiques.
Mais d'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas, Stéphane Gatignon ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Déjà, en premier lieu,
Quelles difficultés rencontrez-vous aujourd'hui ?
Premièrement, il n'y a pas de discours et on n'est pas dans la nation, ce que je viens de dire. Deuxièmement, il y a un problème avec les élus locaux, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts dans les communes. Aujourd'hui, les restrictions budgétaires, les difficultés sociales, économiques des populations, le suivi des populations est très dur.
46 millions d'euros de crédits supprimés
en politique de la ville. Donc, alors ça, ce qui peut vous paraître étonnant, nous, par exemple, à Sevran, avec l'évolution institutionnelle, nous, on gère plus. Moi, je ne gère plus les crédits politiques de la ville. C'est le territoire qui gère les crédits politiques de la ville. Mais par exemple, très concrètement, en bout de chaîne, j'ai appris par un mail cet été qu'il y avait 62 000 euros de moins pour Sevran. C'est des enduits de l'État au territoire, à nous, voilà. Et à la fin, t'as 62 000 euros en moins sur des actions d'ailleurs qu'on avait menées, c'est-à-dire les actions d'été, hein, notamment pour encadrer les jeunes l'été, etc. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est un peu ça qui fait déborder le vase cet été. C'est pour ça qu'on se mobilise. Et puis, deuxième aspect aussi de la mobilisation, c'est la question de la fin des contrats aidés. La fin des contrats aidés, alors à la fois tout un tas de... Ce qui n'est pas le cas chez nous, mais c'est vrai que beaucoup de villes aujourd'hui, beaucoup de communes en difficulté, ils gèrent, ils se démerdent, quoi, hein, c'est un peu la démerde. Beaucoup ont pris, y compris sous des formes un peu d'emplois municipaux, des contrats aidés, parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire autrement. Donc ça a gêné un certain nombre de communes, mais surtout, ça gêne tout le monde associatif. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui les contrats aidés servent beaucoup. Je prends juste un exemple, le monde du football en Seine-Saint-Denis, 550 matchs par semaine organisés dans tous les clubs. J'allais dire de Bondy, le club historique de Mbappé, par exemple, puisque faut aussi donner un peu de célébrité. Mais enfin, s'il n'y avait pas eu un club structuré et tout, on ne sait pas où serait Mbappé aujourd'hui, par exemple. C'est juste le détail. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les clubs aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, il y a des contrats aidés qui aident les clubs à structurer les week-ends, les clubs, etc. Et ça, c'est important parce que c'est notre lien social avec le terrain. C'est ce qui encadre les mômes, etc., etc. Donc, il faut que ça, c'est un vrai problème. Donc, si vous voulez, il y a eu, ça a fait déborder le vase. Il y a 54 000 aujourd'hui contrats aidés dans les zones prioritaires en France. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient préservés, essentiellement dans des associations. Et ensuite, on demande que les contrats aidés avec notamment les clubs sportifs et le mouvement sportif en général puissent être sauvegardés et justement retravaillés avec eux. Voilà, que l'État se réintéresse à ça, les préfectures, les services des sports, etc. Et puis, qu'on ait aussi un volet plus fort sur les questions de formation de ces contrats aidés. Parce que je pense que trop souvent, normalement dans les contrats aidés, on doit aider justement les jeunes et moins jeunes, parce qu'en fait ça touche jeunes et moins jeunes, à se former à côté. Je pense que ça c'est le palier qu'il faut revoir et bien retravailler.
Donc c'est avant tout une question de moyens, ce serait pas une question de distribution des ressources, Stéphane Gatignon?
C'est une question de discours et de place de tout le monde, à la fois des élus, des personnes, de l'humain dans la société et dans la nation. Deux, c'est une question effectivement de moyens pas que pour les communes, mais pour les associations, pour ceux qui restent sur le terrain, bien souvent, puisque tout à l'heure on parlait de la baisse des financements publics dans la recherche, mais la baisse des financements publics dans les collectivités locales, dans l'aide aux assos, il est terrible aujourd'hui. Donc c'est ce qui reste aussi en bas. Et puis, si je parle de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une question de redistribution. Hein, on est quand même en plein dans ce sujet-là.
Il y a d'inégalité entre les territoires,
toujours
les communes
autant d'inégalités
qui sont
entre les territoires. Bon, déjà, vous prenez la métropole parisienne, c'est toujours la plus inégale d'Europe en termes de collectivités. C'est-à-dire que vous avez les collectivités les plus riches et à vol d'oiseau, à je sais pas moi, à 10 bornes, vous avez les collectivités quasiment les plus pauvres. Donc et tout ça cohabite. Donc c'est vrai, il y a eu un travail quand même depuis Borloo, c'est-à-dire depuis 15 ans. De travail sur les questions de péréquation entre les villes. Mais voilà, ça a stagné et aujourd'hui, on n'avance plus là-dessus. C'est pour ça qu'une des demandes d'urgence, par exemple, on demande qu'il y ait un fonds de 100 millions qui aille sur les villes les plus fragiles en France. Il y a un classement, hein, donc tout ça. Et sur les 50 villes pour la dotation de solidarité urbaine, il y a 100 millions qui viennent pour les 50 villes les plus fragiles. Voilà.
Le secrétaire d'État au ministre de la Cohésion des Territoires, le ministre étant Jacques Mézard et le secrétaire d'État étant Julien de Normandie, a rappelé quand même, Stéphane Gatignon, que le budget de la politique de la ville a été sanctuarisé à hauteur de ce qu'il était début 2017.
Le budget aujourd'hui,
certains vont vous dire, vous demandez toujours plus. Vous demandez
le budget de
plus.
La politique de la ville, je vous ai parlé des millions de personnes qui y vivent, c'est 0,4 à 0,5% du budget global. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on représente. Et si vous mettez en termes de finances, les finances globales, c'est-à-dire la DSU, toutes les fonds de péréquation, doit être à 0,6, 0,7.
La DSU, c'est la dotation.
La dotation de solidarité urbaine. Voilà, on est à 0,6, 0,7, pas plus. Donc voilà, je vous ai dit, il y a 8 millions d'habitants, 5 millions dans les zones vraiment sensibles, etc. Donc on parle de ça. Budgétairement, ça coûte rien. Ce qu'on propose dans nos propositions, il y a très peu d'argent. La seule chose qu'on dit, c'est les sommes politiques de la ville qui est à 500 millions, qu'on a réduit à 450 là, qu'on dit revenir à 500 millions, on demande qu'il y ait 1 milliard. Voilà, pour aider, vous avez bien compris, la politique de la ville aujourd'hui va essentiellement dans les assos, ces structures-là, y compris les structures d'insertion, enfin tout ce travail-là. Voilà. Et j'oublie pas non plus, quand on dit ça, il y a eu la grande politique à l'époque, il y a 15 ans, portée par effectivement Borloo à nouveau, mais sur la rénovation urbaine.
Qui a parrainé les états généraux de la politique de la ville.
La politique de rénovation urbaine, l'ANRU aujourd'hui est bloquée. Et donc, on nous annonce quoi? 1 milliard cette année. Mais je rappelle que ce milliard, c'est le milliard de Hollande il y a 3 ans. C'est-à-dire que chaque année, on annonce 1 milliard qui est toujours le même depuis 3 ans et qui est jamais mis. Donc, voilà. Et aujourd'hui, la politique de rénovation urbaine, elle est plombée parce qu'il y a un problème de finance, il y a un problème de cadrage. En plus, il y a les bailleurs sociaux ont un rôle important dans la rénovation urbaine. Et on voit bien que le gouvernement, que ça a clashé complètement avec les bailleurs sociaux. Donc, il y a un vrai blocage aujourd'hui sur tout ça. Et donc, je sais pas trop où on va. Tout ça est très technocratisé, bureaucratisé. Ce qui fait que maintenant, on demande aussi dans nos demandes, par exemple, des choses qui ne coûtent pas d'argent, mais une simplification, une sortie des dossiers sur dossiers ou études sur études d'études qu'on doit faire en permanence.
Stéphane Gatignon, vous remontez à Jean-Louis Borloo et à cette politique de rénovation urbaine. Mais je le disais en introduction, on célèbre en ce moment même, hein, ça a été même lancé officiellement le 6 octobre, si je ne m'abuse, les 40 ans de la politique de la ville. Alors, est-ce que ça veut dire que depuis 40 ans, rien n'a été fait? Pourquoi les problèmes perdurent-ils, voire s'aggravent-ils autant?
Ça a été fait, mais moi, enfin, j'ai un peu le bénéfice de l'âge là-dessus, ce que j'ai vu. Je suis maire depuis trop longtemps, donc 17 ans,
je le rappelle,
ça permet
à
de voir un peu. Celui qui a le plus bossé et qui a ouvert le truc, c'est vrai que c'est Borloo, à la fois sur l'ANRU et à la fois sur la péréquation. Quand il a retravaillé sur la DSU, ça a explosé le cadre et ça a permis à nos villes de vivre un peu pendant quelques années. La question, depuis 17 ans, la question qu'on pose, enfin moi que je pose en permanence, c'est nous, on veut être dans le droit commun.
Ça veut dire
le droit commun, bah, réécrire des règles, par exemple, au lieu d'avoir 10 fonds de péréquation, avoir par exemple un seul fond, et avec un truc simple, avec des règles qui touchent tout le monde. C'est-à-dire que quand on répartit, les dotations aux villes, il faut compter la population, il faut compter par exemple la démographie, mais il faut que ce soit dans le truc dès le départ. Sevran, c'est une ville, il y a 25% de la population à moins de 14 ans. Donc ça veut dire que les responsabilités propres de la commune, la question de l'école, la question des lieux sportifs, de loisirs pour ces gamins, puisque c'est la principale responsabilité aujourd'hui qu'on a, est posée. Et elle se pose différemment dans une commune où tu as 25% de jeunes qui ont moins de 14 ans que dans une commune où il y en a 14-15%.
C'est pour ça que c'est difficile, sans doute, de définir des priorités globales.
C'est pour ça qu'il faut retrouver du droit commun avec des règles. Par exemple, dans les dotations, on devra avoir vraiment aussi la démographie, la question de la richesse des citoyens, parce que ça pose tout un tas de questions, la question de la situation de la ville par rapport aux entreprises, etc. Ce qui n'a pas lieu aujourd'hui, les dotations sont attribuées un peu de la même façon qu'en 82-83 avec la première loi de décentralisation, où il y a eu une grave erreur à ce moment-là, c'est qu'il y avait deux choix. C'était soit les villes avait une dotation qui était pour tout le monde, en gros, par habitant et tout le monde la même chose, soit on faisait un potentiel fiscal financier avec la question de la richesse des villes qui passait par les entreprises. Et on a choisi d'attribuer des choses sans prendre en compte la richesse. Donc, la richesse des villes avec les entreprises. Donc, les villes sont devenues très riches, certaines très riches, avec les entreprises qui étaient là. Et en plus, ils ont eu les dotations à côté. Voilà, donc, on a le problème originel de 82-83 qu'il faut remettre à plat.
Vous êtes en colère, Stéphane Gatignon, ou vous êtes inquiet aujourd'hui pour votre ville, pour vos villes?
Je suis inquiet pour certains lieux que j'ai vus. Je suis très inquiet pour tout un tas de villes du Nord où c'est vraiment difficile. Je me rends compte qu'on est, y compris nous, on arrive à sortir d'un truc et eux sont... On a un point de rupture dans certains endroits en termes de gestion locale, à tous les niveaux. Et là, faut regarder ça parce que... il suffit de voir, mais la question du Front National, de l'implantation du Front National se pose aussi à cette aune-là. Quand le local ne peut plus gérer, quand on voit qu'il y a des communes, parce qu'ils n'ont plus les moyens, prennent des contrats aidés pour avoir des gens qui fassent le balai dans la rue, c'est qu'on est à un niveau qui n'est plus possible. Donc il faut être attentif à ça. Il faut que la nation, je reviens là-dessus, soit attentif à ça, pour pas laisser ces zones-là partir. Et ensuite, il faut remobiliser tout le monde. Il faut que Macron, son discours, je finis là-dessus, le discours de Macron au début était en banlieue, il a annoncé sa candidature en Seine-Saint-Denis en disant, voilà, chacun a sa place dans la société. On a l'impression qu'il a un peu oublié ce volet-là de son discours, même pas mal. Aujourd'hui, il faut qu'il revienne à ça.
Il a d'ailleurs annoncé vouloir rencontrer les maires de banlieue. Est-ce que le rendez-vous est pris déjà?
Toujours pas pris.
Ah, bon, bah alors un appel est toujours, à nouveau lancé.
Toujours pas pris. On va faire le point mercredi prochain. J'espère que ça va avancer.
Ah, il est 8h30. L'appel est lancé. On va le laisser se réveiller et écouter ce que vous venez de dire, Stéphane Gatignon. Mais c'est l'heure de la revue de presse.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
Et la revue de presse, c'est avec Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
On commence avec un dossier sur les bidonvilles, car oui, il y a encore des bidonvilles en France en 2017.
Et oui, ces bidonvilles que la France ne veut pas voir, c'était la une du journal Le Monde datée d'hier, avec ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 16 000 personnes, dont 36% de mineurs, vivent actuellement dans des campements précaires. Il y en a plus de 500 en France, dont 113 rien qu'en Île-de-France. Le retour des bidonvilles, c'est justement le sujet du dernier numéro de la revue Urbanisme, avec un dossier de 40 pages pour comprendre cet objet, je cite, le plus illégitime de l'histoire de l'urbanisme et qui pose d'emblée ce paradoxe. Tandis que les bidonvilles d'hier, ceux des années 60 et 70, commencent à devenir des objets de mémoire à travers des films ou des photos, les campements d'aujourd'hui n'ont jamais autant fait l'objet d'éradication. Et les trois chercheurs, sociologues et architectes qui ont coordonné le dossier expliquent, les bidonvilles s'installent aujourd'hui non plus en périphérie des villes, mais dans le creux et les interstices même des métropoles. Nouvelle vague migratoire et crise de l'habitat abordable, voilà l'origine de leur réapparition depuis une dizaine d'années. Alors, en l'absence d'alternatives, pourquoi ne pas consolider ces campements plutôt que de les détruire ? À Marseille, par exemple, ils sont régulièrement démantelés mais se reconstruisent. L'association Médecins du Monde, qui intervient depuis 1993 auprès des populations roms, estime que la stabilisation de certains bidonvilles peut constituer un sas pour l'insertion des habitants. Respecter l'autoconstruction, c'est aussi ce que défend l'association Système B comme bidonville, qui travaille à porter un regard plus positif sur cette ville pauvre et informelle. Escalier d'accès, sanitaire, jeux pour les enfants, l'association construit des équipements temporaires, car le temporaire, explique la cofondatrice Pascale Geoffroy, certes, ne peut être recommandé en lieu et place d'autres politiques publiques, mais il peut en revanche être respecté comme choix des habitants eux-mêmes, se mettre à l'abri en bidonville, ce n'est pas forcément vouloir en rester là.
Dans l'actualité cette semaine, la chute de la ville de Raqqa en Syrie, jusqu'ici aux mains de Daesh. Une victoire en demi-teinte, Mélanie.
La chute de Raqqa, considérée comme la capitale du groupe djihadiste en Syrie, a été largement commentée et saluée cette semaine dans la presse. Mais on aurait tort de se réjouir trop vite, prévient Joshua Keating dans une tribune parue sur Slate. Car la chute de Raqqa ne change rien, avance le journaliste américain. D'ailleurs, relève-t-il, Donald Trump est resté étrangement discret sur la reprise de la ville. Peut-être notre président était-il distrait, feint-il de se demander. Ou bien peut-être que dans un rare accès de lucidité, ses conseillers comme lui-même ont-ils conscience que vendre la peau du califat est tout sauf une bonne idée. Tout d'abord, selon Joshua Keating, parce qu'après la dévastation totale infligée à Raqqa, le terme de libération sonne un peu creux. Et puis surtout parce que le conflit est loin d'être terminé. Daesh est devenu un mouvement mondial avec des subdivisions actives en Libye, au Sinaï, au Yémen, en Afghanistan et ailleurs. Et enfin, parce que le conflit plus large qui ensanglante la Syrie et l'Irak, au lieu de se terminer, entre dans une nouvelle phase. Selon lui, l'Irak pourrait bien être au bord d'une nouvelle guerre civile. Alors certes, la prise de Raqqa était un des objectifs majeurs des États-Unis, rappelle le journaliste. Mais quand on livre bataille contre une idéologie, l'ennemi n'est jamais vraiment vaincu, il se transforme tout simplement.
Vous aviez envie quand même de terminer avec un message d'espoir, celui d'un homme de 96 ans, Edgar Morin.
Et oui, un homme, alors certes, pour qui le monde reste extrêmement inquiétant, je cite, mais qui n'en garde pas moins des raisons d'espérer. En tout cas, c'est ce qu'il explique dans un grand entretien accordé aux magazines alternatives économiques et à retrouver en accès libre sur leur site. À la question, la société peut-elle devenir meilleure ? Le sociologue répond, s'il y a une société future meilleure, elle s'élaborera d'elle-même. Mon message, c'est de vivre, s'exclame-t-il. Quand j'ai fait de la résistance, c'était dangereux, c'était embêtant, mais en même temps, je sentais que j'avais choisi de vivre plutôt que de survivre. Alors vivez, luttez, aimez, associez-vous, éduquez, s'exclame Edgar Morin. Pour autant, confie-t-il, je ne parle plus d'utopie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a deux types d'utopie. L'utopie folle, celle qui pense à l'harmonie totale, je pense que celle-ci est impossible. En revanche, il y a la bonne utopie. Il est possible, par exemple, de nourrir correctement tous les gens de la planète. Nous avons les moyens agricoles et techniques pour cela. il est possible aussi de faire la paix mondiale entre les nations. Nous avons tous les systèmes de communication pour cela. On voit très bien que ce sont des conditions psychologiques, sociologiques, économiques, des limites, des erreurs, des folies qui empêchent tout ceci. Il faut jouer sur des forces de transformation. C'était mon maître, le philosophe Bernard Kreutzen, qui disait « Être réaliste, quelle utopie !»
C'était la revue de presse de Mélanie Chalandon. Et on retrouve notre invité Stéphane Gatignon, maire de Sevran, maire écologiste de Sevran. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, je ne sais pas, sur les bidonvilles, sur l'utopie d'Edgard Morin, sur la vôtre?
Les bidonvilles, oui.
Vous en avez à Sevran?
Non, mais il y en a beaucoup en Seine-Saint-Denis, plus proche de Paris. C'est une vraie question, en plus c'est 15 000, 16 000 personnes. C'est ça qui est... Alors attendez, on est en France, avec les moyens, Edgard Morin, ce que vous venez de dire à la fin me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ville aujourd'hui où se dire il y a 16 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles sur toute la France, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question qui se pose de prise en main de l'État et surtout à la fois du courage politique, d'inventivité et puis de choses simples à régler, quoi. Il faut avoir les deux pieds sur terre et régler les problèmes. Je pense qu'on peut absorber aujourd'hui dans notre parc immobilier français, puisque c'est sur toute la France, les 16 000 personnes qui vivent ainsi.
L'appel de Grigny, c'est 10 mesures urgentes, Stéphane Gatignon. Vous en avez donné quelques-unes, vous avez donné quelques-unes des priorités, mais je suis surprise de ne pas entendre justement des choses simples. Alors peut-être parce que ça concerne plus Sevran ou quelques-unes des villes de France qui sont concernées plus que d'autres et qu'il faut trouver des points communs. Mais je suis surprise de ne pas avoir entendu, je vais en citer trois qui me semblent majeurs aujourd'hui, culture, école, sécurité.
Alors, on travaille sur les mesures d'urgence, par exemple sécurité, c'est simple, on demande... Bon, il y a l'histoire de la police...
Comme vous dites, l'histoire de la... Vous n'avez même pas à le dire, c'était plus simple de dire police de proximité,
voilà.
Mais le président de la
République,
il
faut le préférer,
la police
que
de sécurité
dis,
du
je
quotidien.
Je vais être très simple, aujourd'hui, il faut déjà retrouver les effectifs qu'on avait il y a 10 ans. Nous, ce qu'on dit, on a une proposition de dire, voilà, on demande dans nos territoires de retrouver les forces de police qu'on avait il y a 10 ans. Voilà, moi, à Sevran, 2001, j'ai
Pourquoi
été
Pourquoi vous ne les avez plus?
J'ai été élu en 2001, il y avait 113 effectifs de police. Aujourd'hui, ils sont 84-85. Donc retrouvons déjà le niveau de 2001.
Vous ne me répondez pas, pourquoi vous ne les avez plus?
Parce que il y a eu, notamment du temps du président Sarkozy, il a secoué, il a réduit énormément les effectifs de police sur toute la France. Et on paye encore, on n'arrive pas à rattraper ça, parce que du coup, il faut former. Y compris dire aujourd'hui, on va mettre une police de proximité, il n'y a pas les effectifs. Donc autant dire, moi je préférerais quelqu'un qui dise on annonce un plan de formation et trouver des solutions de formation et d'arrivée de forces de police plus importantes pour revoir du bleu marine en bas. Aujourd'hui c'est pas fait.
Pourquoi il faut plus de monde, Stéphane Gatignon?
Pour retrouver des... Moi aujourd'hui il faut qu'on ait... Je viens à Paris régulièrement, très régulièrement. Je vois quand même des forces de police en uniforme dans les rues. Chez nous on les voit plus. Parce que les gens, quand vous avez 80 effectifs de police sur un territoire de 50 000 habitants comme Sevran, c'est-à-dire qu'avec faut être ouvert 365 jours par an, etc. Donc les gens sont très peu nombreux à chaque fois, donc ils peuvent pas sortir du commissariat où ils vont en intervention. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème. Donc il faut qu'on ait la police qui soit qui patrouille, qui soit dans la rue, qui connaisse la ville, qui connaisse les gens. Police de proximité, c'est quoi? C'est une police normale, tout simplement. Voilà. Donc il faut retrouver les effectifs qu'on avait avant, au moins pour faire ça.
En 2011, vous aviez réclamé l'intervention de l'armée à Sevran pour éliminer le trafic de stupéfiants.
L'État
avait fini par envoyer les CRS. Hein.
Attendez, moi j'ai enterré
Depuis,
8...
qu'est-ce qui s'est passé?
En termes de violence, en 2011, quand j'ai poussé ce cri d'armes, ça faisait quand même un an et demi. En un an et demi, j'avais enterré 8 personnes liées à des morts violentes liées au trafic de stupes. Voilà. Après, bon, la ville a été quadrillée. Il y a eu 3 ans d'un vrai travail, etc. On a pu travailler avec l'État. Ça a pas réglé le problème, dans la société. Ça l'a déplacé. Aujourd'hui, en gros, on vend à Sevran 35% de ce qu'ils vendaient à cette période-là, il y a 6 ans. Donc voilà, ça a permis des choses. Mais pour permettre ça, faut des moyens énormes. Alors là, si vous parlez de la drogue, c'est autre chose. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas le débat sur la question de la légalisation du cannabis et de la sortie de la prohibition. On peut pas continuer comme ça. Ça a des coûts à la fois policiers, à la fois en sécurité publique, économique, et puis ça a des coûts de déstructuration de la société, tout simplement.
Vous parlez des questions de sécurité, je n'oublie pas les deux autres aspects.
Attendez, simplement aussi, je pense qu'il y a un vrai sujet, par contre, que j'aimerais que l'État aborde, et le gouvernement, c'est la question de la fusion des polices, la fusion de la police municipale et de la police nationale. Aujourd'hui, pour retrouver des... On met tous beaucoup d'argent dans la sécurité. Les communes, les collectivités locales, l'État, tout le monde met beaucoup d'argent. Mais tout le monde met de l'argent, il n'y a pas de cohérence. Donc il faut faire, c'est pas inventer l'eau tiède de dire ça, il faut faire ce qui se passe dans d'autres pays européens ou pays anglo-saxons où les polices sont regroupées à l'échelle locale avec une direction qui serait à l'échelle soit métropolitaine lorsqu'on est dans une métropole, soit régionale lorsqu'on est quand on est en région.
Sevran, Stéphane Gatignau a été médiatisé l'année dernière à travers deux faits. D'abord le livre de la fondatrice de la Brigade des Mères, Nadia Remadna, qui combat l'islamisation des quartiers et qui vous trouve, en tous les cas l'année dernière, qui vous trouvez trop indulgent avec les religieux. Et puis l'autre fait, c'était une polémique après que les parents d'un jeune homme tué en Syrie vous ont accusé de fermer les yeux sur la présence, disons, de recruteurs de l'organisation État islamique dans votre commune. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Que répondez-vous aujourd'hui à ça ? Comment vous agissez dans votre ville ?
Vous savez, on agit au quotidien, mais depuis des années, je travaille avec les services de l'État. Sur ces questions-là, on travaille sur la question à la fois. Vous savez, on est dans un monde cosmopolite, hein. Il n'y a pas que des musulmans à Sevran. On a 73 nationalités. Tout le monde vient avec son histoire, sa religion, sa philosophie. Donc, il faut réussir à vivre ensemble avec ça. Voilà. Donc, on a des soucis. Par exemple, des fois, ça nous arrive entre hindouistes et bouddhistes. Hein. Je dis ça comme ça, mais c'est la réalité aussi de terrain qu'on vit. Il faut bien le voir. Non, on continue de le travail qu'on mène depuis des années. Voilà, le lien avec à la fois les différentes églises entre guillemets, le lien avec la population, le travail avec les services de l'État, le bureau des cultes, du culte musulman. Moi, on a un travail étroit qui se fait notamment sur la question, puisqu'on a un vrai souci quand même dans le monde musulman, notamment les imams qui parlent pas français. Depuis 2 ans, on a dit ça, et depuis, qu'est-ce qu'on a fait ? Pas grand-chose. Donc nous, on a essayé de travailler à la
qu'est-ce
fois avec l'Institut catholique.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, oui.
Nous, avec l'Institut catholique, avec les gens d'anciens préfets, et on a, avec des cadres musulmans locaux, des jeunes, ils ont monté une structure qui fait de l'alphabétisation, qui apprend le français à des imams de Seine-Saint-Denis, donc avec des cours qui sont financés par les services de l'État, etc., pour qu'il n'y ait plus justement cette rupture. On a, c'est vrai, dans les mosquées, beaucoup de jeunes qui y vont, et on ne peut pas avoir des imams qui comprennent pas qui se comprennent pas entre les jeunes et les imams qui parlent arabe. Donc voilà, l'apprentissage du français, qu'il n'y ait pas de traduction des prêches, mais que l'imam dise directement le prêche en français, etc., ça c'est des choses essentielles, ça permet d'avancer. Après, c'est pas la panacée, mais ça permet d'avancer. Et ensuite, on a eu aussi le souci d'une salle qu'on appelait la mosquée Daesh, il y a eu toutes les histoires de polémiques avec les services de l'État aussi là-dessus. Voilà, ça s'est fermé un peu difficilement, mais voilà, après les choses continuent d'avancer. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on agisse tous dans le même sens, et c'est la mobilisation de la société aussi face à ça.
Quand justement la fondatrice de la Brigade des Mères, hein, Nadia Remadna, dit que l'urgence c'est de montrer aux petits 10 ans, aujourd'hui, que dans la vie, il y a la musique, le Louvre, les livres, et pas seulement la religion.
Et vous savez,
qu'est-ce que vous dites,
moi, je
dis ça à vous.
Depuis
vous
des années, on a monté justement la première grande microfolie en France. Elle est à Sevran. Et on a aujourd'hui, à travers la microfolie installée avec les équipes de...
Du coup, je vais faire un blanc.
J'ai un trou d'un seul
c'est
coup,
pas
la
grave,
microfolie
ça va revenir,
de
ça
la
va
Villette.
Voilà.
Voilà. Donc ça fait maintenant, on l'a inauguré en janvier dernier avec l'ancienne ministre de la Culture qui s'appelait Madame Azoulay, qui a toujours une responsabilité importante. Donc là, par exemple, on a un musée virtuel. On a des partenariats avec 9 musées nationaux. Donc on a des collections des 9 musées nationaux à Sevran, plein dans le quartier des Modottes, avec 16 structures, un Fab Lab, etc. On est à plus de 25 000 entrées depuis le début de l'année, un travail avec les écoles, avec tout le monde, on a des gens du monde entier qui viennent voir, et petit à petit l'idée c'est d'en installer un peu partout de ces microfolies qui sont un lieu effectivement de culture, d'accès. Après l'idée c'est d'emmener les mômes là-bas et on a des échanges culturels entre les cultures urbaines et les cultures plus classiques, on va dire.
Donc voilà, vous avez commencé de répondre sur les deux autres aspects qui me semblaient d'être
ça
des aspects
essentiels aujourd'hui, la question de la culture.
La
question de la culture et du sport chez nous est fondamentale, y compris parce que on est dans ces territoires et l'avenir aussi de notre pays passe aussi par là, parce que c'est là que se font les croisements. Mais c'est simple aujourd'hui, t'as tout un tas d'artistes, y compris dans les cultures urbaines, graffeurs, etc., etc., qui viennent de nos territoires. Mais parce que il y a ce mélange, il y a cette tectonique de plaques qui fait que oui, les gens ils viennent avec leur propre culture et c'est là où ça se crée et c'est là où on fabrique et on avance et on arrive à avancer assez de façon assez importante. Mais là, par exemple, On a eu, c'est un autre biais très important, dans les demandes aussi, sur l'école, il y a tout un sujet particulier. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que le gouvernement a fait une très très bonne mesure.
Le dédoublement des classes de CP.
Des classes de CP
Et ça, vous avez eu les moyens de le faire?
Ben, c'est à l'arrache. Hein. Non, on n'a pas eu les moyens. On a fait des choix. On a coupé des classes avec l'argent qui était fait pour faire autre chose. C'est, j'allais dire à un moment, c'est pas la question. Bah, pour faire de l'entretien et tout ça. Mais putain, pour une fois qu'il y a une bonne mesure.
Oh, allez.
Hein, excusez-moi de dire ça. Oui, attention aux mots.
Mais visiblement, le président a dit, c'est pas parce que le président l'a dit, commence de...
Mais excusez-moi, mais simplement, simplement pour une fois, je trouve. Alors, je suis pas pédale. Moi, je viens pas du monde de l'enseignement, mais pour une fois que je trouve qu'il y a un truc bien, on met le paquet et on le fait. C'est comme la microfolie. Quand on a fait la microfolie, moi, j'ai dit, OK, on y va. On a mis le paquet. On se démerde après. On trouve. On va voir tout le monde. On essaye de trouver les moyens et on avance. Pour une fois que ça va dans le bon sens, faut y aller. Donc, on se donne les moyens. Et là, par exemple, on a d'autres trucs. Nous, on est dans l'innovation. Je vous dis juste ça, on a Cycleterre, c'est-à-dire que le Conseil de l'Europe nous donne beaucoup d'argent pour créer une nouvelle filière économique avec l'utilisation de la terre qu'on récupère dans l'excavation des terres du métro du Grand Paris. Donc on va créer une structure industrielle là-dessus pour l'utilisation de la terre en briques, etc., etc. Et on a... Et là, on vient d'être lauréat de l'Inventons la métropole du Grand Paris sur un réaménagement de 35 hectares autour de l'eau et avec l'installation, avec les fédérations françaises de surf et de ski nautique d'une vague de surf artificielle dans le cadre des JO 2024. Tout ça va ensemble. Parce que là, c'est aussi de l'activité, c'est de la formation, c'est des gens qui viennent et pas seulement pour dormir ou vivre ou acheter du shit ou venir prier quelque part, mais ils viennent pour avoir une vraie activité. Voilà, c'est 300 à 700 000 personnes qui viendraient. Donc, lieu de destination.
Oui, et on pourrait ajouter d'ailleurs deux autres priorités aux trois qu'on a déjà évoquées, hein, sécurité, école, culture. C'est logement et transport. Vous évoquez justement le Grand Paris. Les transports, la politique de transport est sans doute une politique fondamentale.
Et justement, il ne faut pas oublier que la ligne 16, je dis ça parce qu'il faut faire partout un peu de lobby, hein, c'est ça. Donc, la ligne 16 est essentielle quand on voit que le gouvernement aujourd'hui veut repousser peut-être la ligne 16 qui vient chez nous, qui est sous bois, Montfermeil. Ça serait un drame absolu pour l'Île-de-France, y compris pour la suite.
Stéphane Gatignon, vous restez avec nous. Il est 8h47 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'idée culture. Mélanie Chalandon, quelle personnalité du monde des idées, cette semaine, vous a confié son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie?
Eh bien, je suis allée voir l'historien Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, vous savez, c'est ce spécialiste des couleurs, des animaux, mais aussi du Moyen-Âge. Et il nous parle de sa passion, véritable passion, pour une histoire d'aventure et de chevalier.
Je voulais parler d'une œuvre qui est à la fois un roman, un peu oublié aujourd'hui, et d'un film qu'on a tiré de ce roman. Il s'agit d'Ivanhoé, de Walter Scott. C'est un roman qui a joué un grand rôle dans ma vie parce que c'est à cause de ce livre, paru en 1819, et que je suis devenu historien et historien du Moyen-Âge. Mais à dire vrai, c'est plus le film qui a décidé de ma carrière que le roman parce que j'ai d'abord vu le film et ensuite lu le roman. J'avais un camarade dont la grand-mère tenait le cinéma paroissial en Bretagne. Et nous faisions les ouvreuses, en quelque sorte, en vendant les Esquimaux et en nous gavant d'Esquimaux. Et donc, pendant toute une semaine, chaque soir, j'ai vu le film de Richard Thorpe, Ivanhoé, pendant cette année 1955. Et cela m'a fasciné. J'aimais jusque-là les cow-boys. Et à partir de cette date, j'ai préféré les chevaliers du Moyen-Âge. Quelques années plus tard, j'ai lu le roman de Walter Scott, dont le film était tiré. Les spécialistes de Walter Scott considèrent que dans l'œuvre de Walter Scott, Ivanhoé, ça n'est pas son meilleur livre. Or, cet ouvrage, paru en 1819, c'est un des plus grands succès de librairie de tous les temps. Le livre raconte tout ce qui fait que le Moyen-Âge est le Moyen-Âge. Il y a des tournois, il y a une attaque de château fort, il y a donc le retour du roi de croisade, il y a un procès hors sorcellerie, il y a une histoire d'amour, d'histoire d'amour impossible entre un chevalier chrétien et la fille d'un riche banquier juif, etc., etc. Donc c'est un livre important, et puis c'est un film magnifique, un grand film hollywoodien des années 50, du début des années 50, assez fidèle au livre, assez fidèle à la reconstitution historique, passionnant, avec de grands acteurs, Robert Taylor, John Fontaine, et surtout Elizabeth Taylor, toute jeune, qui n'a jamais été aussi belle. La musique est magnifique.
Vous disiez que votre vocation d'historien a commencé à naître quand vous avez découvert ce film. Enfant, qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous a touché ?
Je pense que ce qui m'a touché, c'était les costumes, les couleurs et surtout les armoiries. Tous ces chevaliers portent des armoiries. Je ne connaissais rien à l'héraldique, au blason, j'ignorais tout cela. Mais ça m'a intrigué, j'ai essayé de me renseigner. Et plus tard, un professeur de dessin, quand j'étais au collège, m'a donné quelques précisions. Là encore, c'est devenu une passion d'adolescent. Donc c'est cette mise en scène du Moyen-Âge, ce cadre médiéval, ce décor médiéval avec les armoiries, les couleurs, les étoffes, les vêtements, le château fort, les tournois, les bons et les méchants, tout ça m'a beaucoup plu. Je dis les bons et les méchants, d'ailleurs c'est plus nuancé que ça, aucun personnage n'est tout d'une pièce. Le personnage d'Ivanhoé lui-même est assez peu intéressant parce que c'est le seul qui soit naturellement bon et vainqueur, ça n'est pas très intéressant. Mais tous les autres sont très très subtils, notamment les mauvais, le chevalier brillant de Bois Guilbert qui est l'adversaire intime d'Ivanhoé et le traître du roman et du film, est tout à fait fascinant.
Stéphane Gatignon, vous avez lu Ivanhoé, vous voyez comme un chevalier en tant que maire ?
Non. Non, non. Moi, quand j'étais gamin, ce que j'ai fait, je suis historien aussi, et moi, j'aimais bien Ivanhoé, mais c'était surtout Michel Strogoff. Voilà, vous voyez, c'était les aventures et le. Voilà.
Bon, c'était Michel Pastoureau qu'on entendait, hein, Mélanie.
C'était Michel Pastoureau et qui publie tout récemment Une couleur ne vient jamais seule, c'est aux éditions du Seuil. Il poursuit son travail sur les couleurs.